Au Capi-Action, à la rencontre de toutes les réalités du Congo, des régions et de la capitale. Au Capi-Action, pour en savoir plus avec nos spécialistes sur les droits humains, la santé, l'éducation, l'agriculture. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions et de vos commentaires. Au Capi-Action, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa.
Accepter de faire le dépistage du VIH-Sida est une mesure positive pour montrer qu'on prend le risque d'infection au sérieux. Mais ce test de dépistage ne doit pas se faire à la légère. Il faut aider les gens à planifier le test et à faire face aux résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs, de sorte qu'ils puissent réagir de façon positive. D'où l'importance du counseling et le respect de la procédure pour sa réussite. Mesdames, messieurs, vous qui me suivez en ce moment, eh bien réagissez. Hein. Réagissez en nous appelant déjà au 081 890 63 94 ou encore envoyez-nous un SMS au 081 070 25 ans. Dans ce studio, nous avons Madame Fatouma et Madame Euphrasie Kawila de l'ONG Amo Congo. Avec elles, nous allons nous entretenir et parler de long et en long, en long et en large du dépistage.
Radio Okapi.
Okapi,
un partenariat entre la Mission des Nations Unies au Congo et la Fondation Hirondelle.
Pour parler de cette question de dépistage, eh bien nous avons notre consoeur Yeyette Ilunga, je l'ai annoncé tout à l'heure dans ce studio. Bonjour Yeyette.
Bonjour Nathalie et bonjour à tous nos auditeurs.
Oui, vous êtes de la section VIH-SIDA ici à la MONUC. Alors dites-nous en quoi consiste en fait le counseling et pourquoi est-il important dans le dépistage?
En fait, Nathalie, le counseling ou l'entretien permet au client ou au malade de comprendre le bien fondé de sa décision de connaître son statut sérologique. Il comprendra mieux la maladie parce qu'il aura l'occasion de poser toutes les questions que lui trottent dans la tête. Et du côté du conseiller, c'est-à-dire la personne préposée au counseling, elle doit arriver à mettre la personne à l'aise, l'encourager dans sa démarche, lui donner toutes les garanties. Elle doit savoir jouer sur le côté psychologique. En fait, elle doit rassurer la personne sur la maladie et ce n'est pas facile, et pour le conseiller et même pour le client. Ça, c'est le counseling pré-test. Mm-hmm. Et comme le nom le dit, ça se fait avant le test. Mm-hmm. Mais il y a une autre partie qui se fait après le test, c'est le counseling post-test. Mm-hmm. Celui-là, il se fait généralement avant la remise des résultats. Mm-hmm. Et le travail du conseiller ne s'arrête pas à ce moment-là. Mm-hmm. Il doit remettre les résultats quand c'est négatif. Il n'y a pas trop de problèmes, mais quand c'est positif, là, il faut savoir maîtriser la personne.
Est-ce que vous connaissez des cas où la procédure n'a pas été respectée et a été longue?
Oui, je connais certains cas, mais pour un plus récent, par besoin de confidentialité, on ne citera ni de nom de personne, ni d'une quelconque structure. Mmh. Il s'agit d'un test de dépistage qui a été effectué dans une école sur des élèves mineurs, c'était dans la ville de Kinshasa. Mmh. Les parents et les élèves ont donné leur accord en apposant leur signature sur un document remis par la dite structure pour que le test soit fait. Mmh. Mais là où le bât blesse Nathalie, c'est qu'au moment de la remise des résultats, la structure qui a effectué le dépistage a remis à chaque élève, s'il vous plaît, son enveloppe avec les résultats. Mmh. Donc, comme on peut le supposer, il n'y a pas eu de counseling post-test. Mmh. Et ce que je trouve grave, et pourtant on a eu besoin de la signature des parents pour effectuer le test, mais pour retirer les résultats, on estime du fait que certains enfants mineurs sont déjà sexuellement actifs. Il ne faudrait pas y aller avec trop de protocoles. On leur remet les résultats. Ce n'est pas normal.
Oui, ce n'est pas normal. Yeyette, est-ce que vous avez pu rencontrer les parents de certains de ces élèves?
Non, nous n'avons pas encore pu le faire, mais ce n'est pas exclu dans tous les cas. Mais Nathalie, nous avons eu connaissance de certains cas. C'est celui d'un monsieur qui a vécu une situation similaire. Il était malade. On lui a fait un test de dépistage du sida sans le lui dire au préalable.
Bah alors, si on peut écouter ce monsieur, comment il s'appelle déjà?
Il s'appelle Thierry Kabea.
Je suis depuis 1998. Je suis en 400 traités. Donc, je suis en de la typhoïde, la malaria. Je suis en hôpital. Donc, en tout cas, na début, on a, en tout cas, donc, c'est moi difficile. Je comprends qu'il y a un mot, mais par après, je suis en train de se faire. C'est là où on a, puis on a $130. Depuis 98, si, là-bas, 2003, 2004, des psychos, bah, centre et comme au bim. Donc, ce que après, on a dit, c'est que nous avons un amour Congo. Donc, amour Congo, a un amour ici.
Est-ce que vous pouvez rapidement résumer pour nos amis auditeurs qui ne comprennent pas le lingala?
Oui, le monsieur que nous venons d'entendre s'appelle Thierry Kabeya. Il a dit qu'il connaît son statut sérologique depuis 1998, 98 pour nous les Belges. C'était lorsqu'il était malade, il souffrait de la typhoïde et de la malaria. Et le centre où il avait été se faire soigner, où il avait été interné, l'a dépisté du VIH sans le lui dire. Et on l'a appelé pour lui dire qu'il était déjà séropositif. Il a dit que ça n'a pas été facile, mais avec le temps, ça allait un peu. À l'époque, il a dit également qu'il achetait ses ARV à 130 $. C'était quand même beaucoup.
Oui, c'était quand même beaucoup. Et maintenant, grâce au progrès, les ARV commencent à faire sensiblement à baisser. Alors, quelles peuvent être en fait les conséquences d'un test fait sans respect des préalables?
Nathalie, les conséquences sont surtout d'ordre psychologique. Et vous connaissez l'importance du psychologique. Quand on a vraiment le moral bas, on se sent abandonné. Cela provoque également des maladies psychosomatiques, comme on le dit. Et ce qui n'est déjà pas bon pour un organisme affaibli par le virus. Et vous imaginez, par exemple, qu'on vous annonce, comme on le ferait pour une malaria, que vous êtes atteint du VIH-Sida. Non, je crois que c'est très délicat. Il ne faut pas blaguer avec ce domaine-là. Un autre cas, Nathalie, tu m'excuses, un autre cas, c'est celui de l'ONG Rigiac m'a fait savoir. C'est une jeune fille qui est allée se faire soigner. Et c'est le laborantin, tout simplement, qui lui a dit qu'elle était séropositive. Et la dame est tombée, évanouie. Mais depuis, Dieu merci, elle est suivie par des religieuses et elle s'en est remise.
Alors, nous allons peut-être écouter une fois de plus des témoignages de cette personne hein, qui a été dépistée sans son aval et sans consentement.
Au début, on avait donc et touché quand même la comara sous l'art pendant 2 ans. On a trop pour attendre mon souffle. Donc, et la bosse en attendant ma ramboire. Donc, on a eu à salon à canceling. On a Donc, et si ba salaki, si manango, a bengengai ba pesina réponse. Dans un premier temps, on a banan di mangote. Po, na banan mita la santé nan nan a te. Tant moussous, yangote. Er mous, kouyo, tant nan zoom, na sanga trop, na banan zo senti ke, ce qui caramélise ma sanga, fonabel. Ce qui caramélise ma sanga, il fonabel. Après, nan mou, na esko, kutika ma sanga. Na gomou, l'andela sko ki si norma, ti, le lope boui.
Il y a un petit résumé rapide?
Oui, Monsieur Thierry Kabé a dit que depuis l'annonce de ses résultats, il était devenu pratiquement alcoolique. Il déclare n'avoir jamais eu d'entretien avec un préposé au counseling. On lui avait juste dit qu'il était séropositif et on lui a dit quels médicaments il devait prendre. Et dans sa situation d'alcoolique, il refusait d'y croire. Mais chaque fois qu'il prenait de l'alcool, il tombait malade. Et c'est un peu ça qui lui a mis la puce à l'oreille. Il a cherché à en savoir un peu plus. Il s'est rendu chez Amo Congo où il est suivi présentement. On lui a fait un deuxième test et il a arrêté de boire. Il a été suivi. Mais comme il dit, quand il a été chez Amo Congo, il devrait en principe bénéficier d'un counseling. Mais il a dit aux infirmières ou aux préposés de counseling qu'il pensait déjà avoir été aguerri et qu'il avait beaucoup plus besoin de médicaments parce qu'il sentait finalement que c'est quand il buvait de l'alcool qu'il tombait souvent malade. Il a arrêté avec l'alcool et il se sent très bien aujourd'hui. Je l'ai vu, c'est très bon.
Merci, était longue.
Okapi, fréquence de la paix.
Madame Fatouma et Madame Ephrasie Kawila, elles sont toutes deux de l'ONG Amo Congo. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Alors, ma première question hein, s'adresse à vous, Madame Fatouma. Dites-nous, qu'est-ce que c'est qu'un dépistage? C'est à Madame Ephrasie, voilà. Qu'est-ce que c'est?
Fatouma.
Oui, vous c'est Fatouma et vous c'est Ephrasie. Oh là là. Bon, toutes les deux, c'est des noms des femmes, donc on peut y aller. Alors, dites-nous, Madame Fatouma, qu'est-ce que c'est qu'un dépistage?
Oui, le dépistage, c'est le fait de prendre conscience et de vouloir aller se faire examiner, et de faire examiner son sang, enfin, pour la recherche du virus VIH.
Et comment, à partir de quel moment est-ce qu'on peut faire un dépistage? On peut y aller à n'importe quel moment, quand on veut, on y va.
Oui, c'est-à-dire que quand on est préparé déjà psychologiquement, quand on dit le conseil dépistage volontaire, c'est-à-dire que c'est tout à fait volontaire. La personne vraiment est bien préparée et vient de bon gré de lui-même pour connaître son état sérologique. Oui.
Mais ça se passe comment? Bon, parce que j'entends, hein, mais moi j'ai été me faire dépister il n'y a pas très longtemps. Donc ça se passe comment exactement?
Oui, il y a des structures telles que vous avez dit l'ONG à Mon Congo. Et donc, il y a beaucoup de structures ici à Kinshasa qui procèdent au dépistage volontaire et qui ont vraiment des services bien, bien, bien organisés pour ces faits.
Des structures, il faudra peut-être être un peu plus explicite là-dessous. Vous avez parlé d'Amo Congo, est-ce qu'il en existe d'autres? Est-ce qu'à l'hôpital général de Kinshasa, on peut aller se faire dépister? Est-ce qu'on peut aller à l'INRB? Où exactement? Là, on parle de Kinshasa, évidemment.
Oui, là où je dis que les structures sont bien bien organisées, c'est-à-dire qu'ils ont aussi des conseillers formés pour ce genre de dépistage. Si vous allez à l'INRB, on vous remet les résultats dans une enveloppe. Mais si vous allez à l'ONG Femmes Plus, à Mo Congo, à l'MSF Belgique, ce sont des structures bien préparées à PNMLS, donc à PNLS plutôt, à l'hôpital général. Ce sont des structures bien organisées, c'est-à-dire qui ont des conseillers bien formés pour préparer ces gens qui viennent se faire dépister à recevoir les résultats qui seront soit positifs ou négatifs.
Mais alors, Madame Euphrasie, à vous, comment cela se passe quand une personne arrive? Qu'est-ce qui se passe?
En fait, quand une personne arrive, il y a toujours un réceptionniste qui le reçoit, qui lui pose la question, qu'est-ce qui l'amène? Quant aux clients, comme on les appelle, les personnes qui décident de se faire dépister, on les appelle les clients dans les structures des CDV, de dire que je viens pour connaître mon état sérologique. On le reçoit, on doit les confier à un conseiller qui doit procéder au counseling pré-test.
Est-ce que c'est facile pour les gens de dire que je suis venu pour me faire dépister? C'est facile pour eux?
Oui, je crois avec le temps, nous, quand on a commencé à Mo Congo en 99, c'était difficile. À peine on recevait 2 personnes par jour, mais actuellement, c'est plus de 50 personnes par jour.
Par jour.
Oui.
Ils viennent d'eux-mêmes, sans aucune crainte.
Demain.
Ou bien c'est parce qu'ils sont malades, ils ont fait le tour de tous les hôpitaux, et puis finalement, ils se disent, bon, on va quand même voir à Mo Congo, peut-être qu'il y a assez. On ne sait pas. Une maladie qu'on n'arrive pas toujours à détecter.
En fait, chez nous, c'est un peu différent parce que nous avons un CTA, c'est-à-dire on prend
C'est quoi le CDR?
les CTA,
Oui, CTA, c'est quoi?
Centre de traitement ambulatoire.
Voilà, merci.
Il y a de gens qui viennent, ils sont déjà malades, ils ont circulé partout, peut-être on les a référés par un médecin. Ils doivent commencer par le CDV. Ils se disent parce que je suis malade, je suis fatigué, je dois connaître mon état sérologique. Mais aussi, il y a de gens qui viennent. Ils ne sont pas malades, ils viennent connaître les résultats sérologiques. C'est important.
Et le counseling, comme on dit, le counseling c'est en français, mais en anglais plutôt en français, on pourrait le traduire comment? Conseil. Conseil.
Conseil.
Ça se passe comment? C'est-à-dire la personne arrive et puis, parce que on a entendu dans le reportage réalisé par Yeyet Elunga, elle a parlé du counseling, le pré-test, les pré-tests et le post-test. Alors, c'est quoi? Vous pouvez nous expliquer comment ça se passe exactement? Elle arrive, la personne arrive, donc moi, Nathalie, j'arrive, je vois Madame Euphrasie, je voudrais me faire dépister. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là?
En fait, à partir de ce moment-là, quand le client, la personne qui veut connaître son état sérologique, entre dans les box avec les conseillers doivent commencer par accueillir le client, lui donner une place, se présenter. Quand il se présente, il va demander au client pourquoi vous voulez connaître votre état sérologique. Quand le client de dire, en fait, je vais me marier, l'Église m'a dit, il faut à tout prix que j'emmène
Les
un
résultats.
résultat, que je connaisse mon état sérologique. En fait, par curiosité, j'ai entendu parler du CDV, je me suis dit, je dois me faire dépister. Bien, je suis malade. Quant au conseiller de discuter avec les clients, comment vous avez connu à mon Congo?
Donc, en fait, c'est une mise en confiance.
Oui.
On peut appeler ça comme ça,
Oui,
Madame
oui.
Fatouma.
Oui.
C'est une mise en confiance.
Oui, on pourrait commencer un peu par la définition même de counseling ou conseil. C'est une relation d'aide. Donc, le conseiller aide le client. Et une autre définition, selon l'OMS, c'est que c'est un dialogue tout à fait confidentiel entre le conseiller et le client en vue de permettre au conseiller d'aider le client à recevoir les résultats qui seront positifs, surtout les positifs, et l'aider à surmonter le choc, le stress causé par l'annonce du résultat positif et de prendre des décisions constructives pour l'avenir. Et c'est ça qui est très important. Et déjà dans les pré-tests, c'est ce qui se passe.
Donc, dans le pré-test, on vous présente la possibilité comme étant que votre test peut être positif, tout comme il peut être négatif. Okay. Mais que déjà, à ce moment-là, vous soyez prêt à recevoir cela.
C'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Et nous passons le plus longtemps possible à expliquer d'abord ce que c'est que le VIH-Sida, le mode de contamination, comment on peut le contracter, comment on peut l'éviter. On discute un peu avec les clients de ce qu'a été peut-être sa vie, voir avait-il un comportement à risque ou non. Et on étudie aussi la période fenêtre.
La période fenêtre, c'est quoi?
Lorsqu'on est infecté, automatiquement, 3 mois après, quand vous faites dépister, ce sera négatif. Mais vous êtes un faux négatif. Au fond, le virus, c'est déjà en vous.
Ah, c'est ça que vous appelez la période fenêtre.
OK. On évalue cela. Et ensuite, on se met maintenant à préparer le client à recevoir les résultats qui seront positifs ou négatifs. On les met devant un fait qu'il n'y a que 2 résultats au fond. Comme tu es là, venu passer les tests, donc nous n'aurons que présence d'anticorps anti-VIH ou absence d'anticorps anti-VIH. Et on le prépare, on lui dit aussi que ce n'est pas l'examen de palu, que tu viens faire la goutte épaisse. Et la personne elle-même est tout à fait consciente et tout à fait d'accord. Ensuite, on discute réellement, on lui pose même la question. Comme tu es venu et comme on a parlé jusqu'à ce moment, comment penses-tu que seront tes résultats?
Voilà.
Et souvent, c'est un sourire qui accompagne cette question. Et elle commence réellement à réaliser que c'est sérieux, que je ne suis pas vraiment venue faire la goutte épaisse, mais que je suis venue faire un test réellement pour connaître ce qu'il en ira de ma vie dans l'avenir, si je serai positif. Alors la personne déjà commence à raisonner sur ça.
Ah, d'accord. Est-ce que vous êtes, parce que je suis sûre que vous êtes déjà arrivé de recevoir des personnes qui présentent un état physique assez faible, à ces personnes à qui vous avez fait ce counseling, ce premier pré-test, comme on dit, ce pré-test-là, quand vous leur dites ça, quelle est leur réaction généralement?
Souvent, c'est comme Madame Ephrasi l'a dit, nous posons toujours la question, pourquoi au fond ils sont venus faire le test? Elle a énuméré un peu. Cas de maladie, de mariage, comportement à risque ou autre chose, ainsi de suite, parents décédés du VIH, ainsi de suite. Donc, ou bien partenaires décédés du VIH. Donc, il y a toutes ces causes-là. Mais quand la personne vient, et donc quand la personne, pour les résultats positifs, si je pourrais dire, si elle est malade, donc elle est déjà tout à fait. C'est différent. Le counseling avec une personne malade, c'est au fait ce que je voulais expliquer dès le début, est différent complètement d'une personne non malade. Donc, avec les autres causes que j'ai citées, mariage, tout à fait différent. Souvent, les personnes malades, c'est comme déjà abandonnées à elles-mêmes. Et puis, oui, je sais, c'est même un counseling que je pourrais dire plus facile. Parce que c'est une personne qui est déjà consciente que je suis malade et que c'est vraiment, quand vous lui posez la question, comment pensez-vous que seront les résultats? C'est une personne qui vous dirait très facilement que je crois que
ce sera positif.
OK, que ce sera positif, que j'aurai le virus en moi.
OK. Alors, Madame Ephrasi, pourquoi est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait counseling? Parce que bon, le sida, c'est une maladie, hein? C'est une maladie, c'est vrai que jusque-là, elle n'a pas vraiment de vaccin comme tel, mais il y a aussi le cancer qui n'a pas encore de médicaments. Il y a plein de maladies auxquelles on n'a pas encore trouvé vraiment de vaccin, de médicaments comme tel et qui tuent aussi. Pourquoi est-ce que pour le sida, il faut absolument un counseling?
En fait, comme l'a dit Yayette, vraiment, les dépistages contre le VIH-Sida, c'est très délicat. Quand nous faisons le counseling, déjà, nous, dans les dépistages volontaires, on dit que les counseling, le dépistage volontaire, c'est une porte d'entrée dans la prévention du VIH-Sida et aussi dans la prise en charge. Parce qu'une personne qui vient faire son dépistage volontaire doit, s'il est négatif, changer des comportements dans le futur pour se prévenir contre le VIH-Sida. Et une personne qui sera déclarée séropositif, il doit accéder à une prise en charge. Voilà pourquoi vraiment il faut un counseling.
Oui.
Je pourrais un peu compléter Madame Ephrasie en disant ceci. Il faut nécessairement le counseling parce que les résultats positifs que la personne, si bien préparée qu'elle soit, à recevoir les résultats. Mais lorsque c'est positif, il y a toujours un choc. Ça, dans les box, nous vivons ça. Et même si elle a répondu en souriant que je crois que mes résultats seront positifs, mais lorsqu'elles sont réellement positives, il y a toujours le choc. Toujours le choc qui s'ensuit chez tout le monde. Mais ensuite, évidemment, selon qu'il a été préparé, ils essayent de surmonter le choc automatiquement pour alors adopter une autre réaction d'après les conseils qui vont suivre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est un test, évidemment, que même quand nous le préparons, ils nous peuvent nous répondre que si c'est positif, il y a les médicaments, il y a Dieu qui peut m'aider, il y a des structures qui peuvent nous prendre en charge, comme on a dit qu'à partir de CDV, il y a le CTA, donc la prise en charge médicale qui s'ensuit. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a toujours un choc. Okay.
Il y a toujours un choc. Alors, maintenant parlons un peu des conséquences. Hein. Parlons un peu des conséquences, Madame Ephrasie. Quand une personne vient se faire dépister chez vous, enfin, comment ça se passe, la remise des résultats? Est-ce que vous le remettez dans une enveloppe bien fermée? Supposons que ce soit son médecin qui ait demandé qu'elle se fasse, la personne se fasse dépister. Est-ce que vous lui remettez dans une enveloppe bien fermée qu'elle aille remettre à son médecin? Ou bien vous avez le résultat devant vous et qu'elle est assise en face de... Puisque après, il y a toujours un autre entretien et que c'est vous qui le lui annoncez. Ou bien vous lui remettez les résultats, elle les lit. Et puis après, vous commencez. Enfin, comment ça se passe?
En fait, comme on a dit avant, le dépistage est volontaire. C'est-à-dire, même si c'est un médecin qui nous réfère quelqu'un pour le dépistage volontaire, on doit d'abord lui demander s'il est d'accord de connaître son état sérologique. Et les post-tests, l'annonce des résultats, on ne remet pas à quelqu'un l'enveloppe, mais le conseiller détient les résultats et l'annonce au client.
Donc, il annonce au client. Mais après avoir parlé un peu,
Oui, parler un peu.
mais...
En fait, dans les post-tests, il y a d'abord les conseillers doivent d'abord encourager, remercier les clients d'avoir retourné pour récupérer son résultat.
Parce
Et
qu'il y en a
puis,
qui ne reviennent pas.
il y en a qui ne reviennent
Il y en
pas.
a qui... Ah bon?
Oui.
Mais ça, c'est encore plus dangereux, non? Et parmi ceux qui ne reviennent pas, il y en a qui sont positifs?
Si.
Oh là là, ok, donc continuez.
Les conseillers encouragent, félicitent les clients d'avoir retourné pour récupérer son résultat et puis faire un peu, en fait, une révision sur les notions qu'on a discutées avec le
Avant,
client
oui.
dans les pré-tests. Qu'est-ce qu'on s'est dit, le VIH, si le résultat est positif, tout ça avant de vraiment annoncer les résultats.
Oui, mais alors, à ce moment-là, quand vous annoncez, parce qu'on a entendu Madame Fatouma le dire, c'est toujours un choc, hein, c'est toujours un choc d'apprendre que vous êtes atteint. Qu'est-ce qui se passe? Prenons qu'une personne s'évanouisse, comme on a entendu tout à l'heure, hein, qu'est-ce que vous faites?
En fait, comme on a dit, on a défini le counseling, c'est en fait nous aidons les clients à surmonter les chocs. D'abord, les clients, chaque fois que vous remettez un résultat, surtout positif, la première réaction, c'est le choc. Le client est choqué. En fait, le choc qui est une violente perturbation psychique, il est troublé. Alors, les conseillers ont le rôle d'aider les clients à surmonter ces chocs. Lui dire, tu as tantôt dit dans le pré-test que si le résultat est positif, tu aimerais suivre le traitement. Ce n'est pas la fin du monde. Tu peux encore vivre si tu veux.
Donc, vous l'encouragez en fait.
Vous l'encouragez à accéder aux prises en charge qu'il a à ce qu'il a opté dans les pré-tests, jusqu'à ce qu'il va se remettre et pourra se séparer
Madame,
peut-être par un rendez-vous.
Madame Fatima, vous avez quelque chose à ajouter?
Oui, c'est juste pour compléter Madame Ephrasie. Quand nous remettons le résultat, le choc est là. Ça peut être la colère. Le client se met en colère. Il pose la question, qui m'a fait ça? Il tape sur la table. Il ne comprend pas, il essaye de réaliser, il revoit un peu ses relations.
Sa vie.
Soit il commence à pleurer sérieusement, surtout les jeunes. Il pleure violemment, ou même en gesticulant, se jetant par terre, roulant sur elle-même. Et d'autres réactions, soit il vous regarde. Mais vous sentez à un moment que la personne est nerveuse, et les bouts des doigts tremblent, il transpire, ainsi de suite. Le choc est, comment est-ce que je pourrais dire, est extériorisé d'une façon à une autre chez d'autres personnes où il y a accommodement, oui, comme les malades surtout. Bon, Dieu m'aidera, mais après le choc, évidemment. Donc, quand on annonce les résultats, il y a un moment, c'est là où je voulais insister, d'attente. Vous annoncez les résultats, voilà. Madame ou monsieur, mademoiselle telle, vous êtes venu chez nous pour connaître vos résultats, votre état sérologique par rapport au VIH-Sida. Mais il s'avère que le virus qui a présence des anticorps anti-VIH dans votre organisme, donc vous êtes séropositif. Quand vous lui annoncez, vous vous taisez. Vous attendez maintenant sa réaction. Et ensuite, vous laissez ce temps-là où la personne réagit, où le client réagit, et peut-être 5 minutes après, 10 minutes après, soit elle-même qui va poser une question, et alors là, vous intervenez maintenant, vous relancez encore la conversation. Maintenant, alors, vous l'aidez à surmonter ce choc-là et à prendre des décisions destructives, donc constructives, par rapport maintenant à son état sérologique actuel, qui est au fond une nouvelle vie qui commence pour les clients. Une nouvelle vie maintenant avec le VIH. Et comment il va se comporter par rapport à sa sexualité. Et si par exemple vous êtes devant un partenaire, il est en couple, non? Vous l'aiderez à inviter son conjoint ou sa conjointe à venir aussi se faire dépister.
Et combien de temps peut prendre un counseling?
Le counseling, c'est surtout le pré-test, c'est peut-être rapide, hein, 45 minutes, on peut dire, tout au plus. Mais le post-test, même 2 heures, même 3 heures. Parce que si vous avez la personne trop choquée, vous n'avez pas le droit de laisser partir cette personne. Il faut vous assurer à tout prix.
Et bien l'encadrer.
Voilà, l'encadrer déjà et lui donner même un autre rendez-vous de suivi automatiquement selon que la réaction était violente ou moins violente.
Alors, il me reste 3 minutes, hein, je prends mes 3 minutes. On a parlé là des consignes, on a parlé de conseils et tout ça. Tout à l'heure, Yiyete Lunga, dans son reportage, a parlé de 2 personnes à qui on avait annoncé les résultats comme ça, tout de go, sans passer par un counseling. Mais en fait, quelles sont les conséquences? Par exemple, pour ces jeunes enfants à qui on a remis les résultats, on leur a remis les... Vous voyez, c'est un enfant, hein, il a 13, 14 ans, on lui remet une enveloppe, il ouvre et il regarde. Quelles sont les conséquences par rapport à ça, quand il n'y a pas eu conseil?
En fait, quand il n'y a pas eu conseil, d'abord, en fait, je m'imagine que quelqu'un qui ouvre l'enveloppe qui contient un test de dépistage, un résultat d'un test de dépistage, d'abord, peut-être, il peut mal interpréter les résultats. Deuxièmement, c'est vraiment un choc qui ne sera pas encadré, parce qu'il n'est pas en présence de lui un conseiller. Il peut être mal orienté, comme l'a dit Thierry. Il est devenu alcoolique parce que on ne l'a pas préparé à recevoir ce résultat. Une autre conséquence, c'est l'agressivité. En fait, les dénis aussi.
Je ne sais pas, Maman Fatouma, peut-être vous pouvez compléter.
Une personne qui n'a pas été vraiment encadrée, à qui on a annoncé les résultats positifs, c'est la catastrophe, si je pourrais dire, pour la personne. Parce qu'on a vu des personnes, après cela, glisser carrément dans l'état sida. Parce que vous savez que quand on porte le virus, on n'a pas encore le sida. Le sida, c'est le tout dernier stade. Or, le VIH évolue en quatre stades, donc en quatre phases, si on pourrait dire. Et la personne va glisser et va commencer à présenter des symptômes, des infections opportunistes. OK.
C'est parmi les conséquences.
C'est parmi les conséquences, oui. Et pour la personne qui a bien compris son résultat. Il y a des médecins aussi qui annoncent comme ça. Hein. Voilà, tu as le sida, tu as le virus dans ton sang. C'est vraiment trop violent. Il y a des personnes qui ont pensé à se suicider, carrément. Se suicider. Et j'ai connu des cas d'isolement. Après les résultats, c'est une jeune fille, elle est allée s'isoler dans la maison. Et évidemment, elle a glissé très rapidement, donc elle a fait le sida très rapidement. Elle a glissé, elle ne voulait parler à personne, ni se laver, ni manger. Donc elle a fait vraiment la grève de faim, parce qu'elle n'était pas encadrée. Moi, je suis arrivée au fond en retard, elle était déjà dans le quatrième stade.
Oh là là.
Je parlais avec elle, je l'ai récupérée, mais physiquement, je ne pouvais pas la récupérer. Il y a beaucoup de conséquences.
Nous avons plusieurs questions. Une question à laquelle vous allez répondre, hein, l'unique que je vais prendre d'ailleurs, elle vient de Didier Mouamba de Kinshasa. Il dit, est-ce qu'il est permis de dépister le malade sans son aval? Et si cela est arrivé quelque part, quelle est la responsabilité du laborantin?
En fait, il n'est pas recommandé de dépister un malade sans son aval. Le dépistage vraiment est volontaire.
Il est volontaire, il faut qu'il le veuille vraiment.
Il faut que le malade donne son accord.
Il faut qu'il donne son accord. Et même si, par exemple, le laborantin a fait des examens et qu'il se rend compte que le malade est atteint, il n'est pas en droit de donner les résultats.
Non. C'est lui qui a le droit de donner les résultats, seulement le conseiller.
Madame Fatouma, Madame Ephrasi, le temps malheureusement nous est compté. Ce que nous sommes en train de discuter est très, très important. Le sida, on en parlera toujours et on vous recontactera toujours. Merci et au revoir.
Merci.
Okapi Action, à la rencontre de toutes les réalités du Congo, des régions et de la capitale. Okapi Action, pour en savoir plus avec nos spécialistes sur les droits humains, la santé, l'éducation, l'agriculture. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions et de vos commentaires. Okapi Action, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa.